Bonjour, c'est Elisabeth Quin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
Le département de l'Allier va-t-il devenir le nouvel Eldorado du lithium ? Un important gisement de ce précieux métal, indispensable à la fabrication des batteries des voitures électriques, se trouve dans cette carrière d'argile blanche.
Ce qui nous intéresse, c'est d'aller à l'intérieur de ce granit blanc. Et pour ça, on va creuser une galerie pour aller chercher le lithium, en tout cas le minerai, à 50 mètres en dessous de la topographie actuelle.
L'exploitant de la carrière envisage de commencer à extraire le lithium en 2028. Pour la commune des Chassières et ses 377 habitants, le projet représente un millier d'emplois directs et indirects. Mais les riverains s'inquiètent, la mine de lithium serait très gourmande en eau.
Je reprends le slogan de l'office de tourisme Val de Sioule, retour aux sources. Maintenant, il n'y aura plus de retour, ça c'est clair. Le jour où il y aura la mine, il n'y aura plus de retour. Et puis surtout, il n'y aura plus de sources.
Le projet fait l'objet d'un débat public qui vient de démarrer. En toile de fond, des enjeux considérables pour les autorités. Le lithium est actuellement importé à 100%, essentiellement d'Australie, du Chili et de Chine.
C'est un projet très important pour la France, au titre de la réindustrialisation et de la souveraineté énergétique, puisqu'à terme, il devrait permettre la production de 700 000 batteries chaque année.
Plus de batteries, plus de souveraineté, ce discours inquiète dans d'autres départements riches en lithium. Depuis 2 ans, à Tréguenec, dans le Finistère, les habitants demeurent sur leur garde.
Parce que c'est une zone naturelle, parce que c'est une zone protégée, parce que c'est juste pour des intérêts financiers et pour des intérêts pseudo-écologiques.
S'il y a à choisir entre du lithium et l'environnement, moi je choisis l'environnement, quoi.
Alors faut-il ouvrir des mines pour défendre la souveraineté énergétique de la France et répondre à des besoins croissants ? Ou faut-il s'y opposer au nom de la défense de l'environnement ? Le lithium, est-ce vraiment une bonne idée à creuser ?
3 invités pour ce débat. Fanny Verrax, bonsoir, professeure en transition écologique à l'école de management de Lyon. Vous êtes également philosophe, spécialiste de la gouvernance des ressources minérales et membre de Génération Écologie. Et selon vous, la mine propre n'existe pas, il y a forcément des impacts sur l'environnement. Plutôt que d'ouvrir des mines de lithium, il faudrait, dites-vous, repenser nos usages vers plus de sobriété. À côté de vous, Philippe Chalmin, économiste, spécialiste des matières premières. Vous êtes professeur à l'Université Paris-Dauphine et président de Cyclope, centre d'études spécialisé dans les matières premières. Philippe Chalmin, vous considérez que le lithium est incontournable au moins pour les 15 ans à venir. Les écologistes ne peuvent pas dire qu'ils veulent la transition écologique tout en disant on ne veut pas de lithium chez nous, il faut ouvrir des mines en France. Et à côté de vous, Christophe Poinceau, bonsoir. Monsieur, directeur général délégué du Bureau de recherche géologique et minière, vous en êtes également le directeur scientifique et vous supervisez le grand inventaire des ressources minières de la France. Selon vous, il est possible d'avoir des mines propres, ça coûte plus d'argent, ça coûte plus cher. La question qu'on doit se poser, c'est donc, est-ce qu'on est prêt à mettre le prix pour avoir du lithium français plutôt que d'importer du lithium extrait des sols chinois ? Et on va parler de tout ça après le chiffre
oui,
du jour.
Un chiffre impressionnant, hein, dans l'Allier, un gisement de 118 millions de tonnes de lithium est donc potentiellement exploitable. De quoi équiper 700 000 véhicules électriques par an pour une durée minimum de 25 ans. Christophe Poinceau, c'est peut-être pas terminé d'ailleurs parce qu'il y a d'autres gisements en France éventuellement exploitables, c'est cela, dans d'autres régions.
Alors, la réponse formelle, on la connaîtra une fois qu'on aura relancé un inventaire pour mieux connaître ce qu'on a dans notre sous-sol, parce que ça peut surprendre une partie de nos auditeurs, mais effectivement, notre connaissance des ressources présentes dans notre sous-sol en France aujourd'hui reste imparfaite, reste ancienne, et en particulier, on ne sait pas ce qu'on a dans des horizons un peu plus profonds. Donc, il y a un grand inventaire qui a été relancé et qui va se démarrer dans les prochaines années.
Qu'on connaîtra
et
quand
on aura des résultats qui vont commencer au fil de l'eau dans les 5 ans qui viennent, grosso modo.
D'accord.
Mais ce qu'on peut déjà vous dire, c'est que d'un point de vue géologique, il y a de grandes probabilités pour qu'on ait des ressources autres qu'on ne connaît pas encore en lithium en France. Je terminerai juste sur une chose. On n'a jamais cherché le lithium jusqu'à maintenant. Donc, l'endroit où on le connaît, c'est parce que voilà, en cherchant autre chose, on a trouvé du lithium et il est fort probable qu'en le cherchant…
c'est en cherchant autre chose qu'on a trouvé du lithium.
Tout à fait.
D'accord.
Fanny Verrax, en même temps, le lithium, on va en avoir besoin de plus en plus, on l'a dit, pour les batteries électriques, mais pas que. Il y en a dans nos téléphones, il y en a dans les petites piles de lithium qu'on utilise aussi pour les montres, donc la demande va être exponentielle.
Alors, la demande sera d'autant plus exponentielle qu'on ne remet pas en cause les usages, effectivement. Hein, la demande sera d'autant plus exponentielle qu'on continue à augmenter notre mobilité, la taille de nos véhicules, notre consommation numérique, etc. etc. Aujourd'hui, le lithium, quand même, rappelons-le, c'est 80% d'usage pour les batteries et donc principalement pour les voitures électriques.
Et Philippe Chalmin, pour l'instant, l'essentiel de ce lithium, eh bien, il vient de l'étranger, notamment d'Australie.
C'est là que et de Chine.
Non, parce qu'il faut bien faire la différence entre le minerai et le métal.
Ah.
Au niveau du minerai, vous avez deux grandes filières. Ce sont ce qu'on appelle les saumures ou les lacs de haute altitude asséchés, ce qu'on appelle les salars. Donc c'est toute la région, ce qu'on appelle le triangle du lithium, entre l'Argentine, le Chili et la Bolivie. Et puis vous avez les mines qui sortent du minerai, le spodumène, et c'est là effectivement que l'Australie est dominante. Mais par exemple, l'Australie exporte du minerai, et ce minerai se trouve transformé en Chine. Donc la Chine a une place très importante, moins dans la mine. Ils ont de la production parce qu'au Tibet, il y a des hauts plateaux. Enfin, Christophe Poinceau connaît ça infiniment mieux que moi. Mais par
contre, c'est dans la transformation.
C'est dans la transformation qui, elle aussi, il faut bien le rappeler, peut-être que la mine peut poser des questions environnementales, notamment pour les voisins.
Ouais.
Par contre, la métallurgie, elle aussi, est assez fortement chargée environnementalement. Il ne faut pas se leurrer. Une usine, d'une manière ou d'une autre, même la plus propre possible, ça pollue
un
petit
peu. Ça a un impact environnemental.
Et donc, finalement, on a sur le lithium, mais aussi sur bien d'autres métaux, ce même réflexe de rejet qu'on a eu autrefois, par exemple, sur les terres rares.
Alors, bon, enfin, nous, c'est du lithium dont on va parler ce soir. Alors, on va vous soumettre une archive qui pourrait vous étonner, enfin, vous la connaissez peut-être, du lithium à Échassières, eh bien, dans l'Allier, donc, eh bien, cette découverte ne date pas d'hier. Regardez, en 1979, on envisageait de l'exploiter, et la personne qu'on va voir parlait déjà de batterie électrique. Un prophète.
Actuellement, le lithium métal semble avoir un avenir peut-être assez foudroyant devant lui. Et je crois savoir qu'aux États-Unis en particulier, des études sont faites pour la voiture électrique, la pile et la batterie au lithium métal, qui va être commercialisée certainement rapidement sous forme de petites piles pour petits ordinateurs, pacemakers, montres électriques par exemple. Mais surtout la batterie automobile. Alors il est évident que la présence en Europe occidentale d'un gisement peut présenter un certain intérêt. Donc on peut affirmer qu'un gisement aussi important, aussi riche qu'Échassières, riche au sens large, sera exploité un jour. On peut même dire qu'actuellement les projets d'exploitation sont déjà très avancés.
Et sacrément visionnaire, Elisabeth le disait. Christophe Poinceau, pourquoi on n'a pas exploité ces gisements à l'époque ?
Alors, en fait, il faut savoir que ce site d'Échassières, effectivement, est un site exploité par la société Imerys depuis très longtemps. Non pas pour du lithium, mais pour du kaolin, qui est un matériau qui permet notamment de faire de la porcelaine. Ouais. Et donc, forcément, on a été amené à mener des travaux de caractérisation autour de ce gisement de kaolin. Et c'est dans ce cadre-là, effectivement, qu'on a découvert le granit sous-jacent qui est particulièrement riche en lithium. Donc je confirme effectivement ce que dit ce témoignage, c'est que ce n'est pas nouveau qu'on connaisse ce gisement, mais il faut bien avoir conscience qu'en fait, le défi que représente l'approvisionnement en lithium est vraiment lié à la transition énergétique et a pris une importance croissante ces dernières années. Il y a de ça 40 ans, le lithium, certes, on avait tous quelques piles au lithium dans quelques objets, mais ça restait très limité. Sinon, ça avait des usages qui n'avaient rien à voir dans la peinture, etc. Ouais. Et la prise de conscience de l'enjeu de souveraineté, l'enjeu stratégique qu'il représente, date de moins de 10 ans.
Alors, c'est un enjeu de souveraineté, Fanny Verax, mais alors avec des effets environnementaux collatéraux quand même considérables. Pollution, ravage de la géographie, utilisation de l'eau, captation de l'eau, c'est ça ?
Exactement, et je suis ravie que vous ayez utilisé le terme considérable, parce que le risque...
C'est une question, hein.
Le risque, c'est qu'il y a une forme de banalisation de l'impact environnemental de la mine. Quand on dit, oui, comme toute usine, ça pollue un peu. Non, c'est pas comme toute usine. Il y a vraiment des dommages environnementaux particuliers de la mine qui sont particulièrement irréversibles et dangereux. Donc, voilà, moi, ma position, c'est vraiment que la mine verte, la mine responsable, la mine zéro carbone, la mine propre, toutes ces expressions qu'on entend, ça n'existe pas. C'est un outil de communication.
Pardon, mais quand ils disent que 80 90% de l'eau sera recyclée. Vous n'y croyez pas, par exemple, s'il y a une exploitation de cette mine?
En l'occurrence, sur la question de l'eau, c'est pas que j'y crois pas, c'est que pour l'instant, ça n'a jamais été fait. Donc il y a des expérimentations au laboratoire, mais ça n'a jamais été fait dans aucune mine.
Si je peux me permettre de réagir sur ce sujet-là, alors d'abord, le premier point important, toute activité humaine, quelle qu'elle soit, a un impact.
Mm-hmm. Ça, je confirme.
Une mine zéro impact, comme une usine zéro impact, comme etc., ça n'existe pas. Par contre, on peut le réduire au maximum et autant que faire se peut. Et donc là-dessus, aujourd'hui, alors pas en France, parce qu'on n'a plus de mine en France, mais dans un certain nombre de pays, il y a des développements extrêmement performants qui sont menés, et en particulier sur le recyclage de l'eau. Il y a déjà des mines en Finlande ou en Autriche qui recyclent leur eau. Mmh. C'est des procédés qu'on sait faire, qui sont plus coûteux, forcément. De même qu'on peut diminuer l'utilisation et surtout supprimer les rejets de produits chimiques dans l'environnement. Tout ça, c'est des choses qui sont possibles. Et il ne faut pas prendre comme comparaison ce qui se passe aujourd'hui dans des pays qui ont moins de contraintes environnementales que ce qu'on souhaite mettre en place sur notre continent européen, puisque c'est une démarche européenne, en l'occurrence, que d'avoir cette notion de mine responsable, qui n'est pas juste du greenwashing et une acclamation, mais qui est bien un standard auditable par des tiers, pour vérifier qu'effectivement, on respecte des
Fanny
choses.
Verax, Hoche,
et c'est quelque chose qui est en train de se structurer, de se mettre en place.
C'est-à-dire, il existe effectivement des certifications, mais qui ne correspondent pas à grand-chose, puisque contrairement à ce que vous disiez, il n'y a pas vraiment d'audit externe. C'est-à-dire, il y a les sociétés minières qui rapportent des données, mais qui ne sont jamais contrôlées par des tiers. Et donc, toutes les certifications qu'on connaît, en réalité, il n'y a pas vraiment de réalité derrière. Et par ailleurs, là, on s'est focalisé sur la question de l'eau. Il n'y a pas que la question de l'eau. Je voudrais quand même vraiment qu'on parle de la question de l'après-mine. D'accord, parce que
De l'après-mine.
Qu'est-ce qui se passe quand on ferme la mine? Parce que sur le site des Chassières, dans l'Allier, ce qu'on nous propose, c'est une mine qui va durer environ 25 ans. Mais les pollutions environnementales, elles ne vont pas durer 25 ans. Elles vont durer des siècles. Il faudra... D'ailleurs, c'est une des activités du BRGM.
Ce que j'allais dire, je pourrais vous en parler, effectivement.
De gérer l'après-mine. Or, aujourd'hui, on ne peut pas dire que la gestion de l'après-mine en France soit très satisfaisante.
Philippe Chalmin, oui, alors... sur cette empreinte écologique, il faut l'accepter? C'est la conséquence collatérale.
Et d'une infinie cohérence, j'en conviens. À partir du moment où elle prend hypothèse que nous allons du jour au lendemain passer à des mobilités douces, que nous n'utiliserons plus jamais de véhicules électriques, que nous n'aurons plus jamais besoin de lithium ni d'autres métaux sensibles, elle est totalement cohérente. Si on prend une autre position, qui est de se dire que dans la transition écologique, on ne pourra y aller que peu à peu, que le passage par les véhicules électriques sera probablement imposé, que nous aurons donc besoin d'un certain nombre de métaux à mettre dans nos batteries, que ce soit du lithium, que ce soit du cobalt, que ce soit du graphite, etc., se pose le problème de savoir où on va les produire. La position de ma voisine amène à penser qu'au fond, nous n'en voulons pas chez nous, parce que oui, ça pose quand même un certain nombre de nuisances, et donc on va délocaliser nos questions environnementales. Et au fond, sans se boucher le nez, nous importerons du lithium d'Argentine, du Chili ou d'Australie.
Alors, on va laisser votre voisine s'expliquer.
C'est vrai qu'on laisse le sale boulot à des pays tiers. Si on ne fait pas chez nous,
c'est pas ce que je dis. Premièrement,
d'autres le feront.
D'autres le font déjà. Premièrement, c'est pas parce qu'on ouvre des mines en France ou en Europe qu'on va fermer des mines ailleurs. En aucun cas, il n'y aura de substitution. Il y aura un ajout de mines. Pourquoi? Parce qu'effectivement, sans contrôle des usages, on est sur une croissance exponentielle. Je rapporte que quand même, si on regarde la croissance de la consommation en métaux nécessaire sur les 30 prochaines années pour respecter l'accord de Paris, c'est-à-dire la décarbonation, mais sans réduction des usages, on extrairait autant de métaux dans les 30 prochaines années que ce que l'humanité en a extrait jusqu'à aujourd'hui. Quand on parle de réduction des usages en disant que c'est vital, c'est de ça dont on parle. Moi, je ne suis pas du tout en train de dire qu'on va passer du jour au lendemain qu'il n'y aura plus du tout de voitures. Excusez-moi, mais vous êtes en train d'utiliser une dialectique bien connue du tout ou rien. C'est-à-dire, il faudrait réduire un petit peu l'usage de la voiture. Ouais. Aujourd'hui, en France, en gros, on a une voiture, un véhicule pour un adulte et demi. On pourrait tout à fait envisager de diviser par quatre le parc automobile, d'accord ? Une voiture pour six adultes,
il
d'accord ?
Il faut avoir des alternatives aussi autour.
Effectivement, en ayant des alternatives, régions, bien évidemment. Je rappelle également, parce que moi, j'aime pas trop qu'on mette la mobilité électrique tout dans le même panier. Le lithium nécessaire, mais ça va être la même chose pour la plupart des métaux, pour une batterie de vélo électrique, c'est 200 fois moins que le lithium nécessaire pour une batterie de SUV ou de grosse berline. Arrêtons de le mettre dans le panier.
Dans d'autres pays, des protestations ont empêché l'ouverture de mines. Écoutez, c'est le cas en Serbie. Écoutez cet agriculteur.
On est littéralement menacé par une grande entreprise.
Au début, à les écouter, tout serait parfait. La mine n'aurait une superficie que de 20 ou 30 hectares. Puis le projet a grandi avec la menace d'être spolié de nos terres alors qu'ils installeraient une usine, une décharge. C'est là qu'on a commencé à lutter, comme on a pu.
Christophe Poinçon, une question très concrète. Il y a un débat qui a été lancé. D'ailleurs, Fanny Lérac, je crois que vous y allez vous ce soir, ou vous allez y participer à ce débat. Est-ce que, en pratique, ça peut annuler un projet comme celui-là, ou pas ? Une consultation publique ? Ou c'est juste, écoutez, pour donner le sentiment de participation ?
Non, bah écoutez, le processus décisionnel qui est clairement, je dirais, cadré par le code minier prévoit effectivement qu'on a un débat public et qu'à l'issue de ce débat public...
Qui dure pendant combien de temps, le débat public ?
Trois mois, si je ne me trompe pas.
Jusqu'à début juillet,
voilà. Donc, avec un certain nombre de points de rendez-vous, de débats thématisés en général avec les différentes parties prenantes.
Ce n'est pas décisionnaire, on est d'accord, c'est consultatif.
On est d'accord, mais je dirais, in fine, l'autorisation de toute façon de démarrer une telle installation... et du ressort des pouvoirs publics qui prendront en compte l'ensemble des expressions de besoins qu'il y a pu y avoir, d'avis qu'il y a pu y avoir. Moi, je voudrais revenir juste quand même, si vous permettez, sur un point qui a été dit avant, que je souhaitais corriger, sur deux choses. D'une part, tout ce qui est normes, effectivement, environnementales, il faut bien avoir conscience qu'on parle de normes qui sont en train de se mettre en place. Donc, vous me dites aujourd'hui, on n'a pas de normes opposables, auditables, etc. Je suis d'accord, mais c'est quelque chose qui est en train de se construire, à l'initiative de la Commission européenne qui pousse très fortement là-dessus, avec, je dirais également, une action forte de l'Europe.
Qui pousse aux mines ou aux normes ?
Non, qui pousse aux normes.
Aux normes. Deux, mon capitaine.
Qui pousse aux normes de manière à ce que derrière, effectivement, on puisse avoir un environnement pour développer de nouvelles mines qui soit propice et qui soit respectueux de l'environnement et des
populations. Et le code minier a été réformé, d'ailleurs, récemment. C'est peut-être de nature à vous rassurer ou pas ? Ça, que le code minier prenne en considération les normes environnementales ou les exigences environnementales.
C'est-à-dire, il y a des intérêts très divergents entre le code de l'environnement et le code minier, d'accord ? Tout ça se passe au niveau français, mais se passe aussi au niveau européen. Je voudrais rappeler qu'au niveau européen, un cadre comme le Minatura 2020, qui a été en place de 2015 à 2018, donc évidemment c'est une référence directe aux zones Natura 2000, avait pour objectif principal d'éviter ce qu'ils ont appelé la stérilisation des gisements dans des espaces naturels protégés. Donc c'est-à-dire, si jamais par extraordinaire, on découvre un gisement de lithium, de tungstène, de nickel, dans une zone Natura 2000 protégée ou à proximité, il faut à tout prix éviter qu'à cause de nos codes environnementaux trop restrictifs, on ne puisse pas les extraire. Donc, en réalité, la relance minière en Europe va plutôt vers un assouplissement des normes environnementales pour permettre la relance minière.
Alors, vous allez réagir dans un instant, mais il y a peut-être une solution, on va parler avec vous, Anna, des batteries électriques sans lithium.
Oui, le CNRS et l'entreprise française Tiamat ont développé et commercialisé un nouveau type de batterie électrique. Elle s'appelle les sodium-ions, sans lithium donc, et elle pourrait bientôt se retrouver dans nos véhicules demain. Mais un peu de patience, parce que pour l'instant, seul un modèle de visseuse électrique en est équipé en France. Alors concrètement, cette technologie, elle a quand même plusieurs avantages. Déjà, elle n'utilise ni lithium ni cobalt. La matière première, c'est le sodium, le sixième élément le plus présent sur Terre, qu'on retrouve dans les sous-sols et aussi dans les mers, moins de risques de pénurie donc, et moins coûteux à extraire a priori. Deuxièmement, la durée de vie d'une batterie sodium est plus importante qu'une batterie au lithium, 10 ans contre 3 à 4 ans. Et dernier avantage, elle se recharge 10 fois plus rapidement et a plus de puissance qu'une batterie au lithium. Le CNRS assure qu'il s'agit d'un procédé écologique, mais difficile de savoir précisément aujourd'hui comment recycler ces batteries ensuite. Alors, quelques inconvénients tout de même. Les batteries sodium, elles ont une densité énergétique qui est beaucoup plus faible, c'est-à-dire qu'elles sont forcément plus grandes et plus lourdes pour arriver aux mêmes performances que des batteries lithium. Et d'autre part, cette première génération de batteries du CNRS n'est pas encore déployée dans l'industrie automobile en France, mais en Chine, comme souvent, eh bien, ils ont pris de l'avance. Le constructeur JSM Motors a annoncé en janvier la sortie de son premier modèle de voiture citadine. On va la voir ici avec une batterie sodium capable de faire 252 km en une seule recharge. Philippe Chalmin, maintenant qu'on sait que cette technologie existe, est-ce qu'on n'est pas en train de faire fausse route sur le lithium ?
De toute manière, il faut bien être conscient d'une chose, c'est que nous raisonnons à des horizons technologiques qui sont quand même relativement courts. Éluard disait qu'il ne faut pas regarder hier avec les yeux
d'aujourd'hui.
Paul Éluard. Oui, eh bien, il ne faut pas regarder demain, imaginez demain avec les technologies d'aujourd'hui. C'est vrai que, pour l'instant, le lithium, dans la configuration actuelle, il est plus ou moins incontournable.
Alors que le cobalt, on peut le remplacer par du nickel, par du manganèse. Je parle sous le contrôle de Christophe Poinceau pour me corriger. Il est clair que ça, pour l'instant, le gros inconvénient, c'est que si vous regardez d'ailleurs ce que nous voyons sur
la voiture chinoise.
Oui, mais on voit la taille des batteries.
Ouais. Hein, oui, énorme.
On voit la taille des batteries. Si c'est pour une personne, ça ira.
Oui, mais la technologie va très
évoluera vite, probablement.
En un an, deux ans, on peut avoir des batteries.
Ce qui est important quand même, et je pense que notre débat, il doit dépasser un peu le lithium, parce que ma voisine a dit, de toute façon, le problème, c'est la mine. Dans la transition écologique. Et elle va nous amener quand même à être sur des modèles de plus en plus électrifiés. Pour l'instant, et là, il n'y a pas beaucoup d'évolutions possibles, le métal le plus incontournable et celui sur lequel nous allons avoir des problèmes dans les très rapidement, s'appelle tout bêtement le cuivre. Et le cuivre, on en a très peu en Europe.
Mmh. Mais c'est pour ça qu'il y a toute une industrie de recyclage du cuivre qui est en train de se mettre
en place en Europe. On peut le recycler, mais pour l'instant, ça va prendre du temps. Et de toute manière, la transition écologique, l'abandon progressif des énergies fossiles va se traduire par des besoins miniers que vous le voulez.
Mais Philippe Chalmat, vous avez prononcé un mot qui est celui de recyclage. Oui. Christophe Poinçon, Christophe Poinçon. Eh bien, on ne recycle pas le lithium qu'on a dans tous ces petits engins déjà.
Dans les batteries.
Ça viendra.
Alors
d'abord, premier point, moi je suis tout à fait d'accord avec l'importance et la nécessité de développer le recyclage au maximum de ce qu'on puisse faire, parce que c'est un moyen effectivement d'éviter d'avoir à sortir des ressources du sous-sol. Ça nous permet effectivement de développer une économie circulaire qui est vertueuse. Néanmoins, il y a un point qui est extrêmement important, c'est que quand on recycle un objet, on recycle un objet qu'on a produit il y a 20 ou 30 ans, ou 15 ans, ça dépend, et qui est un objet dans lequel il n'y a pas forcément exactement les mêmes métaux que ce qu'on a besoin aujourd'hui, dans lequel il n'y a pas la même quantité. Donc par définition, ça ne va pas forcément correspondre aux besoins qu'on a aujourd'hui. Et deuxièmement, il faut bien avoir conscience que la physique nous empêche de récupérer l'intégralité des ressources minérales qu'on avait au départ dans un objet. Donc tout ça pour dire que dans un monde où on veut construire une infrastructure décarbonée pour la transition énergétique, etc., où on a des besoins en croissance, oui, il faut recycler. Non, ça ne répondra jamais à l'intégralité des...
Alors, Fanny Vérax...
Simplement, juste un mot, dans un monde ancien, celui des voitures thermiques, où on a des vieilles batteries, les deux tiers de la consommation mondiale de plomb, aujourd'hui, c'est du plomb recyclé. Donc, ça donne une idée de ce qu'on pourra peut-être faire à l'avenir.
Alors, recyclage tout et sobriété, vous allez dire, et un autre paradigme qui serait la sobriété, plus de sobriété.
Exactement.
Sous azimut.
Donc, évidemment, moi aussi,
conscientisation de tous les citoyens et sobriété.
Évidemment, je suis très favorable au recyclage. Rappelons que dans la législation européenne, les objectifs pour justement assurer plus de souveraineté métallique au niveau de l'Europe, c'est 10% d'extraction primaire, 10% de nos besoins qui viendraient de l'extraction primaire sur notre continent et 15% qui viendraient du recyclage. Donc, rappelons-le. En revanche, le grand absent de cette législation européenne, c'est la sobriété. Il n'y a rien sur les usages. Rien. Quand vous dites que j'ai un problème avec la mine, j'ai pas un problème avec la mine. J'ai un problème avec l'invisibilisation de la transaction environnementale qui s'opère à chaque fois.
On parle beaucoup sobriété.
Et moi, ce que je pense, c'est-à-dire, si à chaque fois qu'on ouvrait une mine, on était très transparent sur la consommation d'eau, d'énergie, la dégradation environnementale irréversible, l'après-mine, l'effondrement de la biodiversité, etc. Si à chaque fois qu'on ouvrait une mine, on était très transparent sur ces choses-là, il me semble que peut-être, alors, on aurait un renversement de l'acceptabilité sociale qui ne serait plus du côté de la frugalité, mais qui serait du côté de cette croissance exponentielle des besoins.
C'est la conclusion. Je crois que vous avez été entendus et merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat absolument passionnant. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Philippe Chalmat ? Il penche, il pique du nez. Il est d'accord. Merci à tous les trois.
Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.